France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et on commencera par la volte-face de Donald Trump aux États-Unis face à l'indignation générale. Le président a promis que des agents des services fédéraux déployés à Minneapolis allaient commencer à quitter la ville dès aujourd'hui. On se rendra par ailleurs à Bruxelles après la signature d'un accord de libre-échange qualifié d'historique avec le sous-continent indien. À suivre également le mauvais classement des principaux supermarchés français comparé à leurs homologues européen. On reviendra par ailleurs sur le vote hier de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France et notamment la question délicate de son application. Enfin, 30 ans après la fin des essais nucléaires, on se demandera avec notre invité comment la France est-elle perçue aujourd'hui dans le Pacifique. Après les déclarations incendiaires, après les mensonges éhontés face à l'implacable réalité des faits, Donald Trump s'est donc finalement résigné à jouer l'apaisement sans aller jusqu'à s'émouvoir lui-même de la tragédie que constitue l'exécution en pleine rue de deux citoyens américains. Le président a promis qu'une partie des agents fédéraux en charge d'appliquer sa politique d'expulsion devrait quitter Minneapolis aujourd'hui, et notamment le premier d'entre eux, Gregory Bovino, une sorte de commandant itinérant habité par un sentiment d'impunité, est devenu avec ses méthodes agressives, voire illégales, le visage public de cette militarisation à outrance aujourd'hui de la lutte contre l'immigration clandestine aux États-Unis. Alors ce changement de stratégie a visiblement été plutôt bien accueilli, y compris d'ailleurs au sein de tout l'écosystème médiatique conservateur. Fox News comme le New York Post ont chacun déjà commencé à tempérer leurs propos. Il faut dire que face à l'indignation, le malaise avait commencé à gagner le camp présidentiel. Hier, Chris Mandel, candidat républicain à l'élection du gouverneur du Minnesota, a même carrément annoncé qu'il renonçait à se présenter. Puis peut-être que l'ombre d'une confrontation directe possible avec les habitants commençait par ailleurs à se faire de plus en plus menaçante. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Pour superviser à présent ces opérations d'immigration qui n'ont pas été donc suspendues, Donald Trump a annoncé envoyer en Minnesota son tsar de la sécurité frontalière, un certain Tom Homan.
Oui, et c'est un choix parce que deux lignes autour du président s'affrontaient sur la manière d'appliquer sa politique en matière d'immigration. Il y avait celle de la secrétaire à la sécurité intérieure, notamment Christine Noem, partisante de la manière forte, et celle de son conseiller Tom Homan, qui défend des opérations plus ciblées, plus mesurées. C'est donc lui maintenant qui l'emporte. Il prend les choses en main à Minneapolis. Plus qu'un symbole, c'est un arbitrage quasi existentiel qu'a fait hier Donald Trump, parce que cette crise menaçait d'emporter son thème central de l'immigration. Elle a fait plonger des sondages déjà malmenés par les résultats économiques et elle affole des élus républicains habituellement alignés sur le président. Certains réclament une enquête indépendante. D'autres, comme Ted Cruz, le gouverneur du Texas, ont demandé à la Maison-Blanche de changer ce discours. Les propos incendiaires de plusieurs hauts responsables de l'administration, qui ont traité les victimes de terroristes, ne résistent pas à la diffusion virale des vidéos. Même certains sur la chaîne conservatrice Fox News démontent l'aversion des plus radicaux dans le camp présidentiel. En parallèle, les démocrates ont menacé de bloquer les financements pour la sécurité intérieure en fin de semaine. C'est donc une avalanche qui a emporté les théoriciens aujourd'hui d'une brutalisation extrême de la politique de l'immigration.
Merci Étienne Monin. Alors dans ce contexte, forcément la question de savoir si après avoir semé le chaos à Minneapolis, des policiers de l'ICE seront invités aux JO d'hiver à Milan le mois prochain paraît improbable. Et pourtant, le gouvernement italien d'extrême droite les a bel et bien invités en mission de soutien aux Olympiades, aux grand dam du maire de Milan qui lui dénonce une milice qui tue. C'est une correspondance signée Olivier Tosseri.
Les agents de l'ICE ne sont pas les bienvenus, insiste le maire de Milan. Leur présence dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver a indigné l'opposition au gouvernement Meloni, qui se demande si l'Italie est devenue le paillasson des États-Unis. Pourquoi faire appel à une police étrangère aux méthodes décriées alors que le pays dispose de forces de l'ordre spécialisées ? Face au tollé, la communication des autorités italiennes patine. Elles ont d'abord nié la présence d'agents de l'ICE, puis ont tenté d'en minimiser le rôle. Le ministre de l'Intérieur assure qu'il n'y a aucun accord de collaboration opérationnelle et que les policiers italiens restent les seuls maîtres à bord. Le président de la région de Lombardie a d'abord déclaré que l'implication des agents de l'ICE se limiterait à la surveillance des hauts responsables américains, en particulier celle du vice-président et du secrétaire d'État. mais son équipe a ensuite publié un communiqué indiquant qu'ils n'avaient aucune information sur leur présence. Pas de quoi dissiper le malaise à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver.
Quand la guerre commerciale déclenchée par le président américain redessine les dépendances et les alliances économiques.
Oui, l'Inde et l'Union européenne ont conclu ce matin un accord commercial sans précédent, doublé d'un partenariat en matière de sécurité et de défense. Alors voilà, près de deux décennies en réalité que les deux parties négociaient, échouant à plusieurs reprises, notamment sur des questions de droit du travail, de propriété intellectuelle, de normes réglementaires. Et puis, sans doute qu'avec les droits de douane punitifs voulus par Donald Trump, celles-ci se sont fortement accéléré l'an dernier jusqu'à aboutir aujourd'hui donc à cet accord de libre-échange volontiers qualifié d'historique. Les précisions depuis Bruxelles de notre correspondant Fabien Cazot.
Les grands gagnants de l'accord sont d'abord les industriels, exportateurs de machines-outils, constructeurs d'avions ou fabricants d'équipements médicaux ou chirurgicaux. Ce sont aujourd'hui les secteurs les plus exportateurs vers l'Inde, malgré des droits de douane qui pouvaient parfois grimper jusqu'à 44% de la valeur des marchandises. Ils seront réduits à zéro pour quasiment tous ces produits. Le secteur le plus taxé sur le marché indien était l'automobile, 110%, qui seront ramenés à seulement 10% dès que l'accord entrera en vigueur. Des débouchés d'autant plus précieux, souligne le président du Conseil européen, Antonio Costa, au moment où Donald Trump fait de ses droits de douane aux États-Unis un outil de pression sur les Européens.
L'accord de libre-échange signé aujourd'hui est d'importance historique. C'est un des accords les plus ambitieux qui ait jamais été conclu. Dans un monde multipolaire, l'Union européenne et l'Inde construisent ensemble leur prospérité commune.
Les négociateurs européens insistent également sur plusieurs secteurs agroalimentaires qui bénéficieront de ce nouveau partenariat commercial, vin, huile d'olive ou encore boulangerie industrielle. L'accord prévoit également un abandon total des droits de douane pour la viande de mouton et les jus de fruits.
Midi et 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est un classement dont les principaux supermarchés français se seraient sans doute bien passés ou quand on apprend que nos enseignes de la grande distribution sont à la traîne sur le changement climatique comme sur la transition vers une alimentation plus durable et végétale comparée à nos voisins européens. Catherine Pétion, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors dans ce classement initié par un think tank néerlandais, Christian Mark, publié ce matin, deux axes principalement ont été retenus.
Oui, ont été évalués d'une part les actions engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le prévoit l'accord de Paris sur le climat, et d'autre part les actions visant à renforcer la part des protéines végétales dans les rayons. Résultat, les principaux supermarchés français sont en bas de ce classement. Comparé aux autres pays européens, Carrefour est à la 12e place, Intermarché est 20e et Leclerc est tout dernier des 27 enseignes du classement. Or, il est aussi le premier distributeur français en termes de part de marché. Le rapport pointe la faiblesse des actions pour favoriser une alimentation saine et durable, mais aussi l'absence de transparence. Par exemple, le plan climat de Leclerc ne communique pas les émissions de gaz à effet de serre de l'enseigne et ne comprend aucune feuille de route avec des objectifs à court terme. Contrairement à Carrefour qui a bien défini ses objectifs, mais dont les émissions totales ont augmenté depuis. Pour Benoît Granier, qui est responsable alimentation au sein du réseau Action Climat, le retard de la France s'explique par les choix des distributeurs, mais aussi par le manque de réglementation et de politique publique.
On voit que dans d'autres pays où les distributeurs sont en avance, par exemple aux Pays-Bas ou en Allemagne, on a des vraies politiques, des vraies directions qui sont données par l'État pour aller vers une alimentation plus durable et plus bas carbone. Par exemple, aux Pays-Bas, l'État a fixé un objectif de rééquilibrer les apports en protéines dans la population en passant à une majorité de protéines végétales contre une majorité aujourd'hui de protéines animales. En Angleterre, on va avoir une obligation pour les supermarchés de ne pas faire de promotion pour certains types de produits qui ont un fort impact sur la santé et sur l'environnement.
En France, la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat devait, selon la loi, être publiée il y a deux ans, mais elle ne cesse d'être reportée.
Merci Catherine Pétillon.
Le maire de Fréjus, David Racheline, jugé pour prise illégale d'intérêt, a été relaxé ce matin.
Et aussitôt, sans même attendre de quitter le tribunal correctionnel, l'ex-figure centrale du Rassemblement national en a profité pour annoncer sa candidature pour les municipales. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour.
Les deals semblent toutefois oublier peut-être un peu vite que sa réhabilitation à la fois judiciaire et politique au RN apparaît encore comme un long chemin tant il semble gêner aujourd'hui la direction du parti d'extrême droite.
Oui, si son appartenance est bien connue, David Rachline n'aura pas l'étiquette RN officiellement. Il n'a pas sollicité l'investiture du parti, mais depuis plusieurs mois, celui qui était une figure importante du RN est en retrait. Il a démissionné de son poste de vice-président du Rassemblement National en décembre dernier, démission qui aurait été demandée par Marine Le Pen, dont il est pourtant proche. Il est aujourd'hui simple adhérent. David Rachline et Fréjus, la première ville RN version Marine Le Pen, ont incarné la version municipale du parti et sa nouvelle génération. Mais aujourd'hui, les affaires se sont succédées pour le maire. David Rachline doit être jugé en septembre prochain pour favoritisme cette fois. Le maire de Fréjus est soupçonné d'avoir favorisé la société de sécurité de l'un de ses proches dans l'attribution de différents marchés publics. Il y a 2 ans, un livre de la journaliste Camille Vigogne-Lequat dénonçait également les pratiques du maire, révélait les liens troubles avec un entrepreneur local de BTP et l'accusait d'arrangements, de pures inventions, selon David Rachline, qui poursuit la journaliste en justice, mais le parquet financier a ouvert une enquête pour corruption. Hors champ judiciaire, Mediapart révélait également un dîner avec 2 anciens dirigeants du GUD, dont le néo-fasciste Frédéric Chatillon, que Marine Le Pen et Jordan Bardella connaissent bien, mais qui représentent tout ce que le parti aimerait désormais ne plus voir ou ne plus afficher. L'étoile de David Rachline, celui qui fut directeur de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2017, a donc bien pâli. D'ailleurs, à cette heure-ci, on cherchera en vain une réaction d'un quelconque cadre du RN à la relaxe du maire de Fréjus.
Merci Nicolas Balu. Comme attendu, les députés ont adopté la nuit dernière une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Alors le texte doit encore être examiné au Sénat dans les semaines à venir. Une formalité a priori, ce qui signifie que la France pourrait ainsi devenir le 2e pays au monde à se doter d'une législation aussi restrictive pour les mineurs. Sauf que le plus dur en réalité reste à faire, trouver les moyens concret d'appliquer cette interdiction, un défi technique majeur. Marion Ferrer, d'autant que le gouvernement souhaite aller vite avec une mise en œuvre dès la rentrée 2026.
Le gouvernement n'a pour le moment donné aucune précision technique, mais il pourrait opter pour la méthode déjà mise en place en Australie pour justifier de son âge. Il faut donc envoyer une pièce d'identité et un selfie pour confirmer que la personne qui fait la demande est bien celle qui est propriétaire du document. Ce système pose la question du stockage de données personnelles, un enjeu de taille puisqu'en France, 43 millions de personnes se connectent chaque mois sur Facebook et Instagram, près de 30 millions sur TikTok et Snapchat. Mais surtout, cette méthode est facilement contournée. De jeunes Australiens, d'ailleurs, se vantent eux-mêmes d'être toujours présents sur leurs réseaux sociaux favoris, comme le confirme Jacques Hainaut, journaliste spécialiste des nouvelles technologies.
Beaucoup d'entre eux connaissent l'existence des VPN, ces logiciels qui permettent en fait de se localiser dans un autre pays, idéalement bien sûr dans un pays où l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans n'existe pas. Autre astuce, demandez aux parents de s'identifier à votre place pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux.
Autre option, l'emploi d'un algorithme, d'une intelligence artificielle qui calcule l'âge probable de la personne, qui analyse ses traits, sa peau. Mais les jeunes pourraient donc demander à une IA comment duper une autre IA, note avec ironie le spécialiste, qui salue tout de même l'existence du débat face à l'enjeu sanitaire. Enfin, concernant les comptes déjà existants, détenus par des mineurs de moins de 15 ans, la proposition de loi prévoit que ce sont les plateformes qui seront en charge de les supprimer rapidement.
Dans les méandres, toujours, de la représentation nationale.
L'Assemblée devrait repousser aujourd'hui 2 nouvelles motions de censure déposées par une partie de la gauche et l'extrême droite en réaction à la décision de Sébastien Lecornu d'utiliser une nouvelle fois le 49-3 pour faire adopter la partie dépenses du budget de l'État, le cas échéant. Cet échec vaudra adoption en nouvelle lecture du texte qui pourra ensuite être transmis au Sénat.
C'était il y a 30 ans, jour pour jour.
La France procédait à son dernier essai nucléaire en Polynésie, marquant ainsi la fin d'une série de campagnes qui se seront échelonnées dans l'archipel entre 1966 et 1996, avec au total sur cette période pas moins de 193 essais effectués, longtemps restés tabous, mais dont les conséquences sanitaires sont aujourd'hui mieux connues. Depuis 2010, d'ailleurs, une loi indemnise désormais les victimes militaires comme civiles irradiées et qui ont développé des maladies. Alors depuis, comment la France est-elle perçue dans le Pacifique? Cécile Le Carmesdo a posé la question à Sarah Mohamed Gaillard, maîtresse de conférence à l'INALCO, par ailleurs autrice de « Une géopolitique de l'Océanie » parue la semaine dernière au Cavalier Bleu. Elle est aujourd'hui l'invitée de la rédaction.
Peut-être une première question. Il y a 30 ans, quand la France fait exploser la 193e et dernière bombe nucléaire en Polynésie française, en France, c'est un non-événement, mais pas en Océanie, où il y a des protestations, il me semble, depuis déjà l'annonce par Jacques Chirac de la reprise de ces essais nucléaires en 95. Et la France est au banc de certains de ses alliés. Ces protestations ne faiblissent pas. Que dit finalement cette crise diplomatique de la politique étrangère française dans la région à l'époque ?
Alors la France, effectivement, quand elle annonce, quand Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires, c'est un petit peu la stupeur dans toute l'Océanie, que ce soit dans les États insulaires ou bien en Australie, en Nouvelle-Zélande, puisqu'il y avait eu un moratoire en 1992 sur les essais nucléaires. Et ce moratoire avait été compris localement comme une façon d'en terminer avec les essais sans le dire réellement. Donc c'est vraiment un coup de tonnerre dans un ciel bleu pour les Océaniens qui suscite un tollé en Océanie et un tollé qui devient bientôt mondial. On a d'un côté la France qui, depuis plus de 30 ans, s'arc-boute sur un argumentaire qui est toujours le même, c'est que la Polynésie est un territoire très éloigné de la métropole, mais aussi très isolé dans une masse océanique. Elle est loin des grands foyers de peuplement. Et donc, pour ces raisons d'éloignement et d'isolement océanique, hein, l'océan faisant finalement figure de désert, la France martèle qu'elle mène des essais nucléaires dans une grande sécurité et qu'elle a un protocole de sécurité qui lui permet d'annoncer l'innocuité de ses essais nucléaires. Mais cet argumentaire, qui est très raisonnable, ne prend pas sur place, n'est pas compris, puisque pour les Océaniens, les mesures prises par la France sont aussi parfois jugées insuffisantes ou pas suffisamment contrôlées. Donc c'est aussi une façon de percevoir différemment l'océan. L'océan est un espace vide de sécurité. Là, pour la France, ça permet d'absorber les conséquences des essais nucléaires, là où les Océaniens vont voir les risques pour l'océan dans ces essais nucléaires, et l'océan qui est au cœur du mode de vie, mais aussi des cultures et du mode de pensée en Océanie. Donc il y a finalement une incompréhension dès le départ entre un argumentaire français qui se veut très raisonnable et des réactions océaniennes que la France qualifie souvent d'émotionnelles. Enfin, voilà.
Est-ce que cette incompréhension, elle perdure encore aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a laissé des traces dans les rapports de la France hexagonale avec la Polynésie, mais aussi avec les voisins australiens, néo-zélandais, et même il y avait des protestations au Japon, enfin dans toute cette zone-là, ou pas ? Ou est-ce que les choses ont changé depuis ?
C'est un petit peu les deux. Les choses ont changé parce que la France a mis un terme à ses essais nucléaires en Océanie, a fermé le CEP. Donc à partir du moment où la fermeture du CEP a été actée, il y a eu une amélioration de l'image de la France sur la scène diplomatique océanienne. Et la France est devenue un partenaire recherché, notamment par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et en même temps, ça peut sembler des pages fermées depuis Paris, mais c'est, ou depuis Washington ou Londres, mais c'est encore extrêmement actuel dans les différents archipels qui ont été concernés par ces essais nucléaires américains, britanniques et français. C'est un sujet sociétal, environnemental, sanitaire, politique de premier plan, aujourd'hui encore, et même très fortement aujourd'hui, alors que les essais nucléaires sont finis. Il y a aussi un regard, un retour sur les impacts sanitaires, environnementaux de ces essais, sur les non-dits des dirigeants français et parfois polynésiens sur cette période des essais nucléaires. Donc des gens qui ont vécu ça dans leur chair, qui sont marqués dans leur chair, dans leur histoire familiale, et c'est un sujet qui reste extrêmement douloureux et qui est quand même relié à une histoire de relations asymétriques entre la France et la Polynésie.
Est-ce que ça peut ouvrir une volonté peut-être de ces territoires de redéfinir leurs liens avec la France ?
Alors la question est complexe. C'est peut-être pas le seul sujet qui motiverait une redéfinition des liens entre la Polynésie française et la France, mais quand on se sent pas écouté, ça peut motiver des aspirations à l'indépendance ou à l'autodétermination qui seront sans doute pas uniquement motivé par cette question du nucléaire, du passif nucléaire de la Polynésie, participe dans un débat politique qui se fait parfois assez sceptique par rapport à la parole de la France. On l'a vu par exemple avec les déclarations sur l'Indo-Pacifique dès 2018. Donc il y a une relation de méfiance ou en tout cas un ressentiment qui est lié au passif nucléaire qu'il ne faut pas sous-estimer, et notamment ne pas sous-estimer son poids politique actuel et futur.
Merci beaucoup.
Merci.
Sarah Mohamed Gaillard, donc maîtresse de conférence à l'INALCO. Elle était interrogée par Cécile Le Carmes-Deux. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent couvert, humide. Les rares éclaircies seront à chercher du côté du littoral atlantique et du Cotentin. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malraie. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.